Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chef économiste du cabinet d'audit BDO France et également chroniqueuse une fois par mois dans le magazine Forbes. Il y a autre chose, je crois, dans votre pedigree que j'ai oublié.
Pas Paris 1, aussi.
Voilà, Paris 1 Panthéon. Je l'avais écrit, mais je me suis dit, mince, j'ai pas vérifié si c'était bien ça. Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ils tiennent beaucoup à ce qu'on donne la vraie appellation.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, Sorbonne, c'est une marque, vous en avez partout, et donc Paris 1 Panthéon Sorbonne. Stéphane Carcillo, bienvenue.
Bonjour.
Pour le Cercle des économistes, vous êtes responsable de la division revenu-travail de l'OCDE. C'est vous qui avez fait un rapport avec Pierre Cahuc sur le barème Macron.
Oui.
Bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais vous me direz, c'est un peu décevant. Ça nous avait été présenté comme la grande mesure, souvenez-vous. Et le bilan, vous nous le ferez. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour.
Bienvenue, éditorialiste à alternativeséconomiques.fr. Vous avez publié les plus belles histoires de l'escroquerie, du collier de la reine à la ferme Adolphe au Seuil. Surveiller et punir les pauvres, c'est la une du numéro de mars. Vous, votre idée, enfin j'ai regardé ce dossier, votre idée c'est que toutes les mesures qu'on prend en matière d'économie et de dépenses sociales, les premières victimes sont les plus démunies.
Et il faudrait pas grand-chose pour les sortir de la grande pauvreté, en fait.
Oui, alors ça c'est un autre aspect, parce que c'est vrai que quand on voit ce qui a été décidé récemment, si vous mettez un reste à charge de 100 euros sur le compte personnel de formation, bah, c'est celui pour qui 100 euros c'est un peu beaucoup d'argent qui vont souffrir en premier. Ça c'est à peu près certain. Bon, on évoquera de toute façon ce sujet tout à l'heure. Vous dites qu'il faut réformer l'assurance chômage. Le gouvernement, Stéphane Carcillo, avait dit pas de politique, il faut des politiques contracycliques. Et là, c'est exactement l'inverse qu'on est en train de faire. On a fait deux réformes de l'assurance chômage, on s'apprête probablement à recommencer. Et récemment, vous avez considéré que oui, il fallait effectivement multiplier les incitations au retour à l'emploi.
Alors pourquoi ? D'abord parce que le marché du travail reste extrêmement tendu. Hein, c'est un peu...
Les problèmes de recrutement sont toujours là.
Les problèmes de recrutement sont toujours là. On a effectivement l'économie a fortement ralenti. On ne peut pas dire qu'elle soit véritablement retournée, mais on est sur un régime vraiment de croissance faible en ce moment, sous l'effet tout simplement des taux d'intérêt qui sont très élevés. Mais le marché du travail résiste. Il résiste incroyablement.
On a vu les chiffres en France, européen, quatrième trimestre 2023, impressionnant.
Voilà. Le taux de chômage reste très très bas, donc on reste dans un régime de taux de chômage très bas.
Pardon, 7,5% de taux de chômage, c'est très bas ?
Pour la France, oui, c'est très bas. Donc pour la
par
France,
rapport,
ça
par
fait
rapport
partie...
au long terme sur la France.
Oui, Allemagne,
oui, par rapport à l'Allemagne.
C'est pas le plein emploi.
Dans le reste de l'Europe,
par rapport au 18e siècle aussi, mais bon, est-ce que c'est la bonne référence ?
Non, mais dans les autres pays, on est effectivement dans des taux de chômage qui sont plus bas, mais pour la France, ça correspond grosso modo à notre taux de chômage structurel. Entre 7 et 7,5%. Et donc, on est dans un régime où les recruteurs ont énormément de mal à trouver de la main-d'œuvre. Et dans ce contexte, on peut continuer à renforcer les incitations au retour à l'emploi. La France reste le pays dans lequel la durée maximale des allocations est très élevée, même avec les 18 mois. On ouvre les droits à 6 mois de travail, ce qui est extrêmement tôt. Et surtout, on atteint le maximum ultra rapidement. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, pour atteindre 18 mois ou 24 mois, il faut avoir travaillé beaucoup plus que 18 mois ou 24 mois, il faut avoir travaillé 4 ans, 6 ans, aux Pays-Bas, 30 ans, toute une carrière. En France, on l'atteint très 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 vite. Donc on ouvre des droits très vite, ces droits sont relativement longs. Tout ça, c'est très très bien quand le chômage est fort, que les entreprises ne crée pas d'emploi, que il n'y a pas beaucoup, que le marché du travail n'est pas du tout tendu, que les vacances d'emploi ne sont pas là. Donc là, évidemment, c'est très bien d'avoir un régime très protecteur, et on peut même aller plus loin. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans le système d'assurance chômage.
Oui, on rallonge si on arrive à 9%
voilà.
De chômage, ou s'il y a une déformation, je crois, de 0,6 du taux de chômage
voilà.
Sur 3 mois.
Mais dans le régime dans lequel on est actuellement, avec les tensions du marché du travail qu'on a, on peut effectivement aller plus loin dans ce domaine, dans les incitations, surtout au moment où on se demande comment est-ce qu'on va faire repartir la baisse du chômage dans les mois qui viennent. Eh bien, il y a des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre sont surtout effectivement à très court terme incitatives. Et s'il y a un élément sur lequel on peut jouer, c'est celui-là.
L'élément, enfin, aller plus loin, ça veut dire réduire encore la durée d'indemnisation, si je comprends bien.
La durée ou la durée minimale de cotisation à partir de laquelle on ouvre des droits.
Ça, les éléments qu'on a commencé d'ailleurs à toucher dans les précédentes réformes. Donc, réaction, Anne-Sophie Alsif et Christian Chavagneux. dernier à cette vision des choses.
C'est vrai qu'on est dans une situation où on peut dire que malgré le ralentissement économique, l'emploi tient, même si, attention, hein, pour cette année, on va quand même avoir une augmentation du taux de chômage. On va rapprocher normalement des 8% hein, dans les prévisions. Donc voilà, on n'est plus au 7,2 qu'on a pu connaître. Donc il y a quand même un infléchissement parce qu'on a ce ralentissement de la croissance. Deuxième élément, ce qu'il faut regarder, c'est pas en effet le chômage, c'est qui au chômage. Et en France, quand on regarde qui l'est, vous avez raison, hein, là aujourd'hui, il y a des pénuries dans beaucoup d'entreprises. On compte 400, ça peut être jusqu'à 400 000 dans les secteurs marchands où il y a des besoins. Mais on voit que cette population, c'est une population en général qui est très mobile, qui peut changer rapidement d'emploi, qui, en effet, il y a une forte demande, donc qui est dans une situation vraiment de plein emploi et n'a pas aucune difficulté. Et c'est cette population, en créant plus d'incitations de retour, je suis pas sûre que ça ait un effet macroéconomique, en tout cas sur le taux de chômage, élevé. Par contre, les deux segments, c'est-à-dire les moins de 25 ans sans qualification et les plus de 55 ans qui sont au chômage, c'est là, à mon sens, où il faut concentrer l'effort. Et dans ces deux cas, les moins de 25 ans qui n'ont aucune qualification, on a l'apprentissage, on a des politiques. Et là, en effet, il faudrait mettre, à mon sens, l'effort pour qu'ils retournent.
Ou ça, on en a pas mal déjà.
Hein. On en a déjà pas
l'effort
mal.
Fort et lourd.
Mais vraiment qu'on ait plus de 150 personnes jeunes qui sortent sans aucune qualification du système. Donc ça, il y a vraiment un effort à faire. Et puis surtout, les plus 55 ans souvent veulent travailler, mais alors qu'ils envoient des CV et qu'ils veulent travailler, autres ne trouvent pas d'emploi.
Donc vous pouvez créer
toutes les incitations rallonger, ou c'est pas pour ça que le taux de chômage des seniors va s'effondrer. Alors bien sûr, il y a l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, on voit qu'il y a un impact, hein, puisqu'en général, quand vous voulez avoir des mesures de pré-retraite, vous décalez l'âge, c'est ce que aussi le gouvernement voulait faire, et bien vous avez tout de suite une augmentation sur le taux d'emploi. Mais dans le cas de la France, plus 25 ans, moins de 55 ans par rapport aux autres pays dont vous parliez, où il n'y a pas ce phénomène-là, à mon sens, ces mesures n'auront pas l'impact espéré pour arriver au plein emploi, au fameux...
Écoutez, l'étude de la DARES là, montre quand même que les premiers effets de la réforme qui a quand même commencé à augmenter la durée minimale de cotisation et raccourcir la durée, a eu un effet important sur le taux de retour à l'acceptation des contrats. Donc, je veux dire, les éléments incitatifs existent et ils marchent. On a des dizaines d'évaluations empiriques sur l'effet des incitations sur l'assurance chômage. Ça a des effets forts sur les contrats.
Pas forcément sur les comportements, parce que par exemple pour les retraites, ce qu'on voit, c'est que actuellement vous étiez à 64 ans, donc à 60-61, où vous avez un plan pour aller jusqu'à votre retraite et vous vous mettez en pré-retraite. Là, en effet, quand vous augmentez 2 ou 3 ans, bah forcément toute la stratégie pour aller à cette pré-retraite augmente, puisque vous aurez vos droits plus tard. Mais c'est pas forcément un problème de comportement de gens qui ne veulent plus travailler ou qui se disent, en tout cas quand vous avez plus de 55 ans et que vous cherchez un emploi, et bien tout d'un coup j'arrête de chercher parce que voilà, j'ai
avoir... Mais là je parle pas des seniors, je parle essentiellement de la masse. Les seniors, il y a très peu de seniors au chômage. Quand ils tombent au chômage, le taux de chômage des seniors, c'est 5%. Le taux de chômage de la population, c'est 7,5%. Les seniors, effectivement, quand ils tombent au chômage, ont un chômage de longue durée, c'est un problème. Mais l'essentiel du problème du chômage, ce ne sont pas les seniors. C'est surtout des personnes qui sont relativement peu qualifiées, des personnes qui sont relativement jeunes, et donc, comme vous l'avez dit, sont relativement mobiles. Donc le sujet, c'est pas le sujet essentiel, c'est pas le sujet des seniors, là.
Je vous donne la parole. Christian Chavagneux.
Merci.
Allez-y, parce que vous êtes d'une discrétion. Donc j'ai bien entendu.
Il y a un bon débat.
J'ai bien entendu les points de vue. On pourra parler du CDI senior qui a été proposé par les partenaires sociaux, si vous voulez. Parce que,
7,5%, 8% de taux de chômage, on n'est pas au plein emploi.
On
a connu.
J'ai pas dit qu'on était au plein emploi. J'ai dit qu'on était au taux de chômage. C'est le taux de chômage structurel français. C'est pas un taux de chômage qui correspond au plein emploi, c'est 7%.
C'est pas le taux de chômage
structurel. Dans toutes les estimations, c'est entre 7 et 7,5.
Les estimations de taux de chômage structurel qui sont dû à des estimations de la croissance potentielle, tout ça, dont on sait très bien que même les économistes, même Angus Deaton nous a dit cette semaine que c'était un peu n'importe quoi. Donc, ce taux de chômage structurel, non, quand on est à 4-5% de taux de chômage, voilà, on se rapproche du plein emploi. À 7,5-8%, on n'est pas sur une tension du marché du travail. Bon, et l'idée de dire...
Laissez-le terminer.
Mais Christian, les tensions existent. Elles sont toutes les statistiques en ce moment. Les tensions du marché du travail sont extrêmement importantes.
Laissez-le terminer, Stéphane.
Il y a des secteurs sur lesquels il y a des tensions et des secteurs sur laquelle il y a moins de tension. Donc oui, il y a des secteurs sur lesquels
On peut rien dire. Il y en a pas de tension, il y a moins de tension. Tout ça veut rien dire. Il y a des statistiques sur les tensions du marché du travail qui sont extrêmement tendues. Christian. Donc
Laissez-le terminer quand même. Allez-y, Christian Chavagneux.
J'ai l'impression d'être avec Philippe Aguillon, on peut pas en placer une, mais pourtant c'est Stéphane Carcillo. Il y a un petit frottement là entre les deux. Non, il y a que 5% des seniors qui sont au chômage. Pourquoi? Parce que le reste, ils sont au RSA, parce qu'ils dépendent de leur conjoint, parce qu'ils ont plus de revenus. Donc le taux
taux d'emploi des seniors est très largement inférieur. C'est bon, je suis bon sur les stats là. Le taux d'emploi des seniors est très largement inférieur à ce qu'il est dans les autres pays. Donc il y a un vrai problème sur les seniors. Cette idée de, il faut inciter les gens à retourner sur le marché du travail, ça veut dire qu'ils sont incités compte tenu de la protection aujourd'hui à rester sur leur canapé à regarder des séries Netflix. Non, je pense pas que les gens qui ont pas de boulot aujourd'hui sont désincités de retourner sur le marché du travail. On connaît bien Cahuc Carcillo, ça fait des années qu'ils nous disent que la protection sociale est trop élevée dans ce pays, notamment la protection
sociale
des chômeurs est trop élevée. Et donc, on va encore aller un petit peu plus loin pour faire encore plus de pauvres. Écoutez, on va aller sur les seniors encore un peu plus loin.
Vraiment, c'est un discours très politique, c'est pas du tout un discours.
Alors que vous avez un discours pas politique du tout,
non, pas du tout.
Expert économique.
C'est pas du tout un discours. C'est un discours très politique. C'est un discours très politique. Les évaluations publiques sont très claires sur les incitations au retour à l'emploi, sur la sensibilité des comportements aux incitations financières. Après, on peut avoir un discours très politique, mais le niveau est vraiment. Enfin, c'est pas là que se situe le débat, là. Enfin, moi, je m'attends à avoir une discussion qui est un peu plus élevée en termes d'évaluation.
Je m'excuse d'être au niveau, monsieur le professeur.
Les évaluations sont très très claires dans ce domaine-là. On peut toujours prendre un exemple dans la rue, ici ou là, et voilà. Les évaluations sont très claires. Les demandeurs d'emploi réagissent fortement aux incitations de retour à l'emploi.
Après, peut-être
voilà.
Qu'on peut dire.
Évidemment, ils vont pas réagir lorsque le marché du travail va mal. Actuellement, le marché du travail est extrêmement tendu. Il y a énormément d'offres qui ne trouvent pas preneurs. C'est une situation dans laquelle on peut renforcer les incitations au retour à l'emploi.
Peut-être qu'on peut dire, je ne serais pas d'accord, mais c'est vrai que sur les incitations, il y en a, il n'y a pas de débat là-dessus, il y a des évaluations, mais par exemple, la réforme des retraites était sûrement plus efficace que la réforme de l'assurance chômage. Et juste la difficulté, c'est que...
Pour le taux d'emploi des plus âgés.
Exactement.
Ah bon, donc, en théorie, oui, voilà. c'est un casier effet mécanique.
On peut faire des évaluations, il y a des réformes qui marchent plus que d'autres. Et juste pour l'assurance chômage, moi, mon propos, c'est juste de dire que oui, ça crée des incitations, mais que ce n'est pas avec ça qu'on ira au plein emploi, qui est quand même normalement l'objectif du gouvernement de retourner aux 5%. Donc ça peut en créer, mais à mon sens, on ne règle pas le problème de fond qui est vraiment le problème d'employabilité des seniors et des jeunes qui partent sans qualification. Voilà.
Ça règle pas le problème des jeunes et c'est intéressant le débat sur le plein emploi en fait Christian Chabannieux, parce que quand on regarde le taux de chômage français qu'on l'appelle structurel ou pas structurel, ça fait combien de dizaines d'années qu'il est à 7 au plus bas, au moins 20 ou 25 ans, je me trompe?
Ouais, début des années 2000, ouais.
Je crois qu'on est tombé à la fin du mandat Sarko à 6-9, si ma mémoire est bonne, mais sinon on a toujours été à 7. Quand on est à 7 depuis 25 ans, c'est un peu structurel.
Au début des années 2000, on n'était pas loin de 5. Les questions, rappelez-vous, Nicolas, il y a 25 ans, on se disait, mais le plein emploi, c'est pour quand?
Oui, mais
début
des
années 2000, on n'était pas à 5%.
Fin des années 90, début des années 2000.
Ah, mais non.
On n'est pas tombé. Fin des années 90.
Non, même les années 90, on n'est pas tombé à 5. On n'est jamais descendu en dessous de 7. Ouais. Depuis les années 1980, je crois, ou 1978.
Un autre élément, j'avance, mais bon, j'ai entendu vos arguments, et effectivement, la question peut-être des jeunes et des plus âgés, elle n'est peut-être pas forcément réglée, mais bon, d'après ce que me dit Stéphane dans sa vision des choses, c'est une vision plus globale des demandeurs d'emploi. Stéphane Carcillo, on est en train de durcir un peu aussi autre chose, c'est les conditions pour accéder à certains dispositifs RSA. Il va falloir travailler, ça va être généralisé au début de l'année 2025. L'histoire de la logique des droits et des devoirs, c'est une bonne logique?
C'est une logique qui est appliquée dans les pays nordiques, hein, très fortement, qui sont des pays extrêmement protecteurs aussi, dans lesquels les dispositifs de protection sociale et notamment de lutte contre la pauvreté sont très efficaces. Donc il y a pas de raison de pas l'appliquer chez nous. Je veux dire, la lutte contre la pauvreté, elle est multifacette, parce que la pauvreté, c'est à la fois un problème monétaire, d'absence de travail, d'absence d'un nombre suffisant d'heures travaillées. C'est aussi, et donc dans ce cas-là, il faut effectivement inciter au maximum soit à se former, soit à faire un certain nombre d'activités qui peuvent améliorer l'employabilité et à développer tous les efforts qui permettent un retour plus rapide sur l'emploi ou d'augmenter le nombre d'heures travaillées. Ça, c'est la première chose. Après, ça suffit pas, parce que la pauvreté, c'est aussi des freins qui sont à la fois non monétaires et qui sont parfois aussi pas liés à l'expérience professionnelle. Ça peut être des situations de santé, ça peut être des situations de mobilité, de problèmes de garde d'enfants, etc., qui empêchent empêche de travailler. Et dans ces cas-là, il faut évidemment que, quels que soient les droits et devoirs, ce soit adapté à la situation de ces personnes, parce que cette pauvreté, elle a plusieurs visages. Effectivement, une partie sont des gens qui pourraient se rapprocher du marché du travail, donc la logique de droits et devoirs peut fonctionner. Une partie, les freins sont vraiment très différents, et dans ces cas-là, il faut appliquer cette logique de droits et devoirs avec discernement. Donc, on peut pas l'appliquer exactement la même toise absolument à tout le monde. Il faut qu'il y ait un sas d'évaluation des situations individuelles.
C'est votre avis, Anne-Sophie Lassif, parce que là, bon, on a l'expérimentation RSA qui va être généralisée, mais cette logique de droit et devoir, elle est à peu près dans partout.
Oui, ça, tout le monde.
Et elle est défendue par l'opinion publique.
Tout le monde est d'accord pour le fond là-dessus. Là encore, je rejoins tout à fait. Le problème, c'est encore qui. Et vous citez très bien les pays nordiques, ils mettent beaucoup plus de moyens sur l'accompagnement. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on va dire droit et devoir, vous avez des problèmes qui sont énormes, et en fait, l'emploi, c'est le dernier des éléments. Bah, c'est vrai que dans les pays nordiques, vous êtes accompagné globalement. Si vous avez une addiction, si vous avez un problème de logement, quelqu'un qui a une addiction à un problème de logement, vous pouvez dire tout ce qu'il veut, il faut trouver un emploi demain, il ne pourra pas. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est très bien de vouloir faire ça, mais il faut, à ce moment-là, quand on parle souvent des pays du Nord, mettre aussi les mêmes mécanismes d'accompagnement en face. Pas juste dire il y a des droits et des devoirs, et puis de l'autre, laisser la personne, on va dire, sans accompagnement, mais en globalité. Pas seulement sur l'emploi, aussi sur le logement, sur par exemple l'alphabétisation, sur plein d'autres éléments qui font qu'il est éloigné du travail. Et c'est vrai que ça, on le fait moins en France par rapport aux pays nordiques.
Ce serait un exemple à suivre. Ça, c'est ce que disent beaucoup. Bon, je ne sais pas si France Travail aura les moyens et la capacité d'apporter ces évolutions et ces innovations en matière d'accompagnement. Un avis là-dessus, Christian Chavagneux?
Le mécanisme d'accompagnement, ça veut dire du budget en plus. Hein. Ça veut dire des points de PIB en plus.
Mais pas que du budget, aussi avoir par exemple des structures qui soient plus globales. Quand vous regardez beaucoup de témoignages, mon logement, c'est une personne, mon problème d'addiction, c'est... Donc, il n'y a pas de prise en charge souvent dans la personne, dans sa globalité, de voir l'ensemble de ces difficultés et par rapport à ça, quelle réponse avec toutes les différentes caisses ou les différents organismes on peut avoir. En plus, avec des personnes qui ne sont pas forcément familiers de l'administration, de remplir des dossiers, etc. Donc, ça peut être assez compliqué dans ce magma de s'y retrouver pour beaucoup. Et donc, il y a des découragements et aussi des personnes qui restent durablement hors du système.
Stéphane Carcillo, vous êtes confiant sur le projet France Travail et l'idée qu'on va vraiment progresser dans ce domaine? Parce que moi, j'entends très souvent l'exemple scandinave, nordique. Ouais. Très bien. Mais je sais effectivement que les montants consacrés à l'accompagnement sont absolument colossaux. Après, les droits et les devoirs sont aussi sévèrement sanctionnés quand ils ne sont pas respectés. Mais ça veut dire qu'il faut une structure. Et est-ce qu'on a aujourd'hui ça?
Alors, je ne suis pas... j'ai pas totalement compris exactement comment ça allait fonctionner concrètement.
Mais France Travail, c'est une sorte de fusion de tout ce qui existe, les missions locales.
Oui, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, mais cette fusion, c'est pas vraiment une fusion. On essaie de travailler ensemble, mais sans véritablement travailler ensemble. Donc, sans être véritablement ensemble dans les mêmes locaux. Moi, ce que j'ai vu dans les exemples étrangers, c'est que quand ça fonctionnait, c'est que les gens étaient au même endroit.
Au même endroit. Oui.
Et là, j'ai l'impression que les gens vont pas être au même endroit. Donc, avec des bases de données séparées. Enfin, il y a des projets pour améliorer les bases de données et la transférabilité. Je vois que c'est sur le c'est un des sujets, mais je ne sais pas du tout. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a besoin d'avoir des moyens supplémentaires, parce qu'en fait, cette activation et ces droits et devoirs, c'est surtout des dépenses par bénéficiaire, des dépenses soit par chômeur, soit par personne indemnisée au titre du RSA qui serait plus importante, avec des moyens d'accompagnement plus importants et des moyens de formation qui sont plus importants. Mmh. Et c'est difficile parce que le plan d'investissement en compétences, par exemple, qui a été le PIC qui a été déployé.
Lequel on fait des économies, hein.
Voilà.
Dans les 10 milliards d'euros.
Mais qui a eu un effet important sur la montée en charge de la formation et sur l'accès à la formation, a raté un certain nombre de ses cibles pour l'instant, qui était d'augmenter, non seulement le nombre d'heures de formation parmi les publics fragiles, les jeunes, les moins qualifiés, ça il a augmenté, mais il a augmenté pour ces publics de la même manière qu'il a augmenté pour les autres publics. Donc le reciblage des aides publiques de formation sur les personnes qui en ont le plus besoin, ça c'est quelque chose qui est très dur à faire. Et qui est-ce qui le fait? C'est le service public de l'emploi. Ouais. Et probablement que si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a peut-être des problèmes effectivement de logique de droit et devoir, mais il y a aussi probablement des problèmes de capacité à lever des freins pour accéder à ces formations. C'est parfois des problèmes de mobilité, des problèmes de revenus, etc. Ouais,
on va marquer une pause. On se pose la même question sur l'apprentissage. Est-ce qu'on n'a pas trop ouvert l'apprentissage à tel point que ça coûte 20 milliards d'euros par an? Et il n'est pas impossible que des réflexions dans les économies des 20 milliards qu'on nous prévoit pour 2025 portent, entre autres, sur la question de l'apprentissage. Surveiller et punir les pauvres, c'est la une d'Alternatives économiques du mois de mars. Comment éradiquer la grande pauvreté? Il y a une double page hyper concrète. Je vous en donne les principaux éléments. Christian pourra les commenter avec moi. À tout de suite.